Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. Bonjour François.
Bonjour Catherine et bonjour à Serge Allary qui est, que je devine derrière la vitre et à qui j'ai parlé tantôt.
Toujours, il est là, fidèle au poste, tu le sais.
Ben, c'est the old faithful là, comme là-bas dans le à Yellowstone. Là.
Serge, là, je me tourne, je sais qu'il est là. Il me laisse jamais tomber. Alors voilà,
ben, les saluts. Ben, derrière chaque grande femme, il y a un homme.
Ah, des fois, c'est l'inverse aussi. Peu importe, mais il est là, ça, je le sais. Hey, François, explique-nous un petit peu, c'est quoi cette affaire-là? Donc, est-ce que c'est confirmé qu'il y a des éléments potentiellement explosifs?
Bon, moi, je ne suis pas... le dossier actuel, je le connais pas. Okay. Mais je connais l'histoire du site et je connais l'histoire industrielle du Cap de la Madeleine. Oui. Cap de la Madeleine, c'est une ville d'industrie de guerre. Le Cap est, je dirais, la vocation industrielle de Cap, du Cap de la Madeleine, est née avec la guerre. Parce qu'avant la guerre, il y avait 400 jobs manufacturiers au Cap et à la fin de la guerre, il y en avait 2500. Ça veut dire que les industries du Cap, ou bien étaient des industries tournées vers la guerre, ou c'est des industries qui s'étaient converties à des fournitures de guerre. Et c'est ça qui est arrivé avec l'International Foils, qui s'est installé en 1938 sur le terrain dont vous parlez. Mm-hmm. Ils ont toujours fait, eux autres, jusqu'à récemment, jusqu'à leur fermeture, ils ont toujours fait du métal en feuille, le foil, ça le dit.
Ouais.
Mais ce que je peux vous dire, et pour répondre précisément à ta question, Catherine, pendant 2 ans et demi, ils ont fait des munitions. Entre janvier 43 et août 45, la compagnie qui a occupé ce terrain-là et cette usine-là s'appelait la Dominion Rubber Munitions, et ils ont fait des munitions comme leur nom l'indique. Les voisins aussi faisaient des équipements de guerre. L'ancienne Touk, là, qui est une usine de textile, ils faisaient des vêtements pour les soldats. À la Norton, ils faisaient, je pense, des explosifs. L'aéroport civil du Cap est devenu un aéroport militaire. Et en plus de ça, pour loger tous ces ouvriers-là, le Cap de la Madeleine a été la première ville à profiter du wartime housing. Vous savez, les petites maisons de guerre, là, comme il y en a ici à Trois-Rivières, à côté de l'hôpital. Il y en a au Cap de la Madeleine aussi. Et ça a été les premières, là, c'est un programme fédéral, ça, pour loger les ouvriers. Alors, pas loin de l'usine en question, la Dominion Rubber Munitions, on avait des maisons de guerre du wartime housing. Il y en avait une centaine et ça a été les premières en Mauricie.
OK. Dis-moi, tout à l'heure, je rappelais les propos d'un auditeur qui est un ancien militaire de Bagotville qui me jasait un petit peu du dossier, qui disait, bon, si jamais ça se confirmait qu'il y avait bien des explosifs, ben il va falloir que ce soit le ministère de la Défense qui s'occupe de ça, qui paye la facture. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit ça? Si c'est confirmé, est-ce que tu rejoins ces propos-là?
Moi, je suis pas un expert là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que je viens de Nicolette, où il y avait un champ d'expérimentation de tir au canon, et que les obus dans le lac Saint-Pierre, c'est le ministère de la Défense qui a payé pour leur récupération, et ça s'est fait récemment là pour nettoyer un peu le fond du lac Saint-Pierre. Mais dans le cas de Nicolette, c'était un équipement, un lieu fédéral. La Dominion Rubber Munitions, je peux pas vous dire quelle était son... c'était une compagnie privée, de toute évidence, à contrat avec le gouvernement, et à partir de là, ben c'est les juridictions qui vont jouer, là, vous demanderez aux gens. Je sais que à Trois-Rivières, pour avoir travaillé jusqu'à récemment pour la ville, mes collègues de la sécurité publique étaient très, très, très concernés par ce site-là parce qu'ils avaient des renseignements qui leur indiquaient qu'il y avait à la fois de la contamination et peut-être des matières dangereuses.
OK. François, ce dossier-là d'Aléris, ça n'aura pas été facile. Hein? L'usine qui a cessé ses opérations en 2008, par la suite, bon, le ministère de l'Environnement qui gère le site depuis 2011, mais c'est toute une saga quand tu regardes ça là, dans toute l'histoire. Là.
Ben, c'est des fermetures d'usine, c'est... D'abord, c'est désastreux au départ parce que ça fait des mises à pied, mais après ça, on fait quoi avec une usine désaffectée? En partant, c'est quoi la valeur d'une usine désaffectée? Moi, j'avais un collègue que vous avez peut-être connu qui est disparu aujourd'hui, M. Braic. Lui était à l'évaluation de la ville de Trois-Rivières et sa spécialité. Puis après sa retraite, il a fait le tour du Québec, il est allé à Jonquière, il est allé à Valleyfield, à Sherbrooke. Sa spécialité, c'était de donner de la valeur. Quelle est la valeur d'une shop qui est vide, d'une shop qui ne produit plus? Alors, c'est la valeur du terrain en général, mais le terrain décontaminé, puis le bâtiment jeté à terre, on a la même histoire à la Belgo actuellement.
Oui, tout à fait, exactement. Alors, donc, le potentiel de cet endroit-là, pour toi, est-ce qu'il est viable?
Il est énorme, le potentiel est énorme. C'est comme quand on a défait. C'est sûr, la CIP a fermé, ça a fait mal ici à Trois-Rivières, mais aujourd'hui, allez voir, c'est Trois-Rivières sur Saint-Laurent. C'est magnifique, on en est fiers.
Tout à fait.
Et ça va être la même fierté qu'on va avoir bientôt, sauf qu'il y a des étapes que moi, je ne connais pas parce que j'ai quitté le monde municipal et je peux pas vous dire où ils en sont. Vous demanderez à Pierre-Luc Fortin ou à Sabrina Roy, qui sont les représentants du quartier, qui sont informés par leurs fonctionnaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être la fierté et ça va être une relance pour le bas du Cap.
Absolument. D'ailleurs, on mise beaucoup là-dessus pour relancer ce secteur-là. Alors, on verra dans les prochaines années. Mais bon, là, pour l'instant, on va se concentrer. Il y a du travail à faire pour aller confirmer, justement, s'il y a bel et bien des explosifs. Alors, c'est un travail minutieux, là, François, là, qui risque de s'amorcer.
Oui, puis il faut dire aussi que c'était à l'époque l'avenir de Cap-de-la-Madeleine, parce que Cap-de-la-Madeleine était coincé un peu à l'époque, dans les années 30, ça s'étirait le long de la rue Notre-Dame, et à partir du milieu des années 30, on a percé l'axe qui existe encore, fusée Saint-Laurent et Sainte-Madeleine, et au nord de cet axe-là, et c'est là que les usines se sont installées. J'ai parlé tantôt de la Touc, la Norton, la Reynolds, toutes ces usines-là étaient au nord de cet axe-là, et c'était un parc industriel qui était florissant. Puis comme j'ai dit, avec la guerre, ça a été des années très, très, très fastes. Ça a fait que Cap-de-la-Madeleine, en termes de capacité industrielle, a rejoint Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère, qui, elles, s'étaient industrialisées un peu avant.
Oui.
Absolument. Alors, voilà, donc, moi, je vous raconte des vieilles histoires. Là. Pour l'avenir, vous parlerez à d'autres.
Absolument. Puis on adore ça que tu nous racontes des vieilles histoires, d'ailleurs. Merci, François, de ta présence ce matin.
Ben moi, je vous dis à la prochaine. Ben, je sais que vous parlez beaucoup de la COVID, mais si vous avez envie de parler d'autres choses, appelez-moi.
Absolument. On ne gênera pas. Salut, François.
Merci.
Bye-bye. François Roy, donc historien. Toujours intéressant de l'entendre.